Merci, Père Dominique, pour cette invitation à participer aux conférences de carême sur la paroisse. C'est une grande joie pour moi, en tant que sœur des Sacré-Cœurs, en cette année jubilaire, de vous parler du Père Monroe, notre fondateur. Nous nous préparons à fêter les 200 ans de la naissance de la congrégation, congrégation qui est née le Jeudi Saint 1818. Merci à vous d'être présents dans l'Assemblée. Il y a plein de sœurs qui connaissent déjà bien le Père Monroe. Reprenant le titre de l'exhortation apostolique du pape François, « La joie de l'Évangile », j'aimerais intituler cette conférence « La joie de l'Évangile chez le Père Monroe ». Je me suis appuyée sur les écrits du Père Monroe, ses lettres et ses sermons, sur le travail immense et passionnant que sœur Marguerite Vrignaud, archiviste, nous a laissé, et sur des travaux de plusieurs sœurs de la congrégation. Un bel héritage. Je les remercie pour leur travail. Et je remercie aussi le père Bernard Pitot, supérieur de la congrégation des prêtres de Saint-Sulpice, qui a eu l'occasion d'écrire sur le Père Monroe. Sans son travail et celui de mes sœurs, je n'aurais pu écrire pour cette conférence. Je leur suis très reconnaissante. Mon propos va s'articuler autour de trois parties. Le Père Monroe, un homme de la Bible, pasteur. Le Père Monroe, un homme au cœur passionné, fondateur de la congrégation des Sœurs des Sacré-Cœurs, les Sœurs de Mormaison. Et troisième partie, le Père Monroe, passeur de vie. J'espère vous faire découvrir quelques traits de sa personnalité attachante et de son rayonnement spirituel. Le Père Monroe, un homme de la Bible, pasteur. Je vais d'abord commencer par quelques mots de biographie du Père Monroe, ce qui va nous permettre de voir dans quel terreau sa vocation a pu éclore et s'enraciner. Pierre Monroe naît à Saint-Martin-des-Noyers le 29 juillet 1787 et il sera l'aîné de 8 enfants. Son père exerce le métier de maréchal ferrant et sa mère est fille de meunier. Il a 12 ans quand éclate la Révolution. Il a 7 ans quand les colonnes infernales de Thureau passent à Saint-Martin-des-Noyers, pillent et massacrent. Moment de terreur et d'épouvante. Les gens terrorisés se cachent dans la forêt du Détroit, toute proche. Les parents de Pierre Monroe forment un foyer chrétien, courageux et ouvert. Ils accueillent dans leur maison et cachent un prêtre clandestin, l'abbé Pronza de Langlade, venu de Loire-Atlantique. Pierre, à 10 ans, est choisi comme servant de messe et accompagne l'abbé Pronza, souvent la nuit, dans des lieux écartés de la forêt du Détroit, sous la garde vigilante des guetteurs. Le père Pronza le forme à la liturgie et le charge de catéchiser les autres enfants de la paroisse lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de le faire lui-même. En mai 1800, à la veille du départ de ce prêtre, Pierre Monroe va faire sa première communion. un jour qu'il a beaucoup attendu. De tous ces événements, cet enfant de 13 ans, que va-t-il garder dans son cœur, sa mémoire, son intelligence? Adolescent, il travaille avec son père à la forge. Il a aussi à cœur de transmettre sa foi aux enfants qu'il réunit le soir et leur apprend également à lire et à écrire. Très apprécié de ses camarades, il est recherché pour sa compagnie et sa joie de vivre. Il vivra aussi une crise d'adolescence. À 18 ans, une infection doublée d'un mal de gorge durera une année et l'oblige à prendre un peu de distance avec ses amis. De cette année de retrait, traversée par l'épreuve de la maladie, cet adolescent, que garde-t-il dans son cœur, sa mémoire, son intelligence? Peut-être se rend-il compte de l'affaiblissement criant du clergé au sortir de la Révolution? Peut-être cette prière monte-t-elle en son cœur? Seigneur, que veux-tu que je fasse? La réponse à cette question viendra naturellement quand, libéré des obligations militaires, à son père qui lui transmet une proposition de mariage, il dit son souhait de devenir prêtre. Pierre Monroe entre au séminaire à Chavagne-en-Paillé à 20 ans. Il aura la chance d'être formé par un homme exceptionnel, le père Baudouin, supérieur du séminaire. Cela vaut la peine de s'arrêter quelques instants sur cet homme. Le père Baudouin refusa de prêter le serment de la Constitution civile du clergé. Accueilli dans le diocèse de Tolède, il mit à profit ses années d'exil pour approfondir sa connaissance de la Bible et mettre en place sa théologie spirituelle centrée sur le Verbe incarné, témoin de l'amour du Père pour l'humanité. De retour d'exil, il vécut caché dans une maison au Sable d'Olonne pendant 3 années, avant de reprendre son ministère au grand jour. C'est là qu'il posa les premières bases de la Société de Marie, fondée en 1799, société religieuse destinée à des prêtres, dont fera partie le père Monroe au début de son ministère. Cette congrégation, d'abord écartée par Mgr Pailloux en 1818, reprendra vie plusieurs dizaines d'années plus tard et subsiste aujourd'hui dans la congrégation des fils de Marie Immaculée, les pères de Chavannes. Il pose aussi les fondements de la congrégation des Ursulines de Chavannes avec Charlotte Gabrielle Ronfray sous le nom des filles du Verbe incarné. Pendant ces 4 années au séminaire, Pierre Monroe apprend ce goût de l'écriture qu'il a habité toute sa vie. Il se dit émerveillé et même ému par l'enseignement du père Baudouin, particulièrement par ce qui touche le mystère de l'incarnation du Verbe et la maternité divine de Marie. Il se met à son école et se laisse creuser une oreille de disciple. Au séminaire se révèlent ses grandes qualités intellectuelles et spirituelles. Sa profonde communion avec Dieu, son attachement et son amour de l'Eucharistie édifient son entourage. Pierre Monroe est ordonné prêtre le 25 août 1811. Pendant 3 années, il va exercer son ministère de prêtre en tant que vicaire aux Sables d'Olonne, à Fontenay-le-Comte, à La Garnache et à Isnay. Il arrive au Brésil le 14 août 1814 comme curé de la paroisse et il est attendu. Cela fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de prêtre à la paroisse des Brésils. Dès son arrivée, sa première visite est à l'église où il se prosterne jusqu'à terre. Les quelques témoins sont saisis d'admiration. Le lendemain, une foule immense est présente pour accueillir son pasteur. Sa première prédication est reçue comme une parole de feu qui touche les cœurs. Ses 897 sermons témoignent de son attachement à l'Écriture sainte et sont émaillés de citations bibliques qu'il ajuste les unes aux autres. Dans ses sermons, il propose de méditer un mystère de la foi ou d'entrer dans une scène évangélique, tout en étant attentif aux réalités simples de la vie ordinaire. Il sait trouver les mots simples pour transmettre l'intelligence des textes bibliques et surtout l'amour du Christ. Dès qu'il a une minute à lui, il se retire pour prier et lire l'Écriture. L'Eucharistie a une place centrale et est la source de la vie spirituelle pour le Père Monroe. Ses paroissiens sont frappés par la manière dont il célèbre l'Eucharistie. Je cite Sœur Marie de l'Incarnation. La ferveur semblait rayonner dans toute sa personne. Il avait vraiment quelque chose qui portait au bon Dieu. Que de fois nous l'avons vu comme absorbé dans l'amour de Dieu. Il paraissait comme collé à l'autel. Le Père Monroe s'efforce de leur faire comprendre que c'est la vie tout entière qui doit devenir eucharistique. Je le cite. Vous pouvez, à tous les instants du jour, vous offrir à Dieu en union avec notre Seigneur qui s'offre pour nous. Il attache une importance particulière à la fréquentation de l'Eucharistie. Il en connaît la nécessité pour nourrir et faire grandir la charité et avec elle toute la vie chrétienne. Pour accomplir avec courage la longue route à faire, comme il dit, il instaure pour les religieuses la pratique de la communion quotidienne qu'il considère comme la nourriture des forts. Il invite ses paroissiens à communier souvent. Il passe aussi de longues heures au confessionnal, si bien qu'il fait parfois penser au curé d'Ars. Pasteur, pendant 42 années au Brésil, il n'a de cesse de manifester par son zèle apostolique sa charité à l'égard de tous, sa vie d'union à Dieu, la profondeur de l'amour du cœur de Dieu pour toute personne. Près des adultes, il est un éveilleur de laïcs chrétiens, les formant et les encourageant selon leur attrait spirituel, pour devenir catéchistes ou s'engager dans des confréries. Il est aussi un éveilleur de vocation et il instruit des jeunes, les préparant à entrer au séminaire. Il aura la joie de voir 23 jeunes Brésiliens devenir prêtres. La cure des Brésils est un lieu de vie qui lui ressemble. L'intérieur du presbytère respire la pauvreté par la très grande simplicité de son ameublement. Mais il y règne un tel bien-être. Elle transpire la bonne odeur de l'accueil et du partage. Tous sont accueillis, le pauvre comme le riche, et même des soldats. Les enfants courent au-devant de lui pour le rencontrer. Ici, on est écouté, conseillé, réconforté. Ses confrères prêtres sont reçus avec beaucoup de cordialité et se savent toujours invités à sa table malgré la frugalité des repas. Il ne garde rien pour lui. Près de ses vicaires, c'est un bon compagnon de vie. Sa réputation d'austérité fait peur, en particulier à certains de ses vicaires. Mais dès qu'ils le connaissent, ils s'aperçoivent vite qu'il ne fait jamais peser sur eux le poids de son ascèse. C'est un homme joyeux qui chantonne souvent, avec qui il fait bon vivre. Sa bonté touche le cœur des gens. Sa foi et sa charité active deviennent contagieuses. Les témoignages concernant sa bonté sont nombreux. Il est très aimé des gens parce qu'il est très proche d'eux, proche de chaque famille. J'en arrive à la deuxième partie. Le père Monroe, un homme au cœur passionné, fondateur. Je cite notre règle de vie. Chez le père Monroe, curé de la paroisse des Brésils, la volonté d'union à Dieu dans le cœur de Jésus se fait spontanément passion de révéler aux hommes ce Dieu de tendresse et d'amour. De là est né, au cœur même de la paroisse des Brésils, notre congrégation de religieuses des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie. Lorsque le père Monroe arrive au Brésil en 1814, il saisit tout de suite les besoins en matière d'éducation et il a le souci de former des jeunes filles sur un plan humain et chrétien. Il sait que cette éducation permettra de reconstruire la société sur de bonnes bases. Il existe sur la paroisse une petite école pour les filles dont l'institutrice, Madame Massé, est reconnue pour ses qualités humaines et ses aptitudes d'éducatrice, son sens de la formation des enfants. Le père Monroe demande des religieuses près de la congrégation des Ursulines de Chavannes, fondée par le père Baudouin, mais il reçoit une réponse négative. Ce refus le préoccupe et il va entrer en réflexion profonde, ce qui lui fera dire un peu plus tard: on ne veut pas m'en donner, j'en ferai. Pendant plusieurs années, il visite la petite école de Madame Massé, attentif à faire grandir ses élèves dans la vie spirituelle. Il développe en particulier la vie eucharistique, faisant communier les petites filles dès qu'il reconnaît leur formation religieuse suffisante. Il éveille dans le cœur des jeunes élèves de Madame Massé le désir de la sainteté et la recherche du trésor de la consécration totale à Dieu. Il veut communiquer son amour passionné pour le cœur de Jésus. Je le cite. Le Sacré-Cœur est vraiment cette perle précieuse dont parle notre bon Seigneur dans son saint évangile. Le Jeudi Saint, 1818, le 19 mars. Madame Massé, 57 ans, reconnue cofondatrice de la congrégation. Marie-Anne Charlotte Perraudeau, 16 ans, et Marie-Esther Blé, 12 ans, prononcent les trois vœux d'obéissance, pauvreté, chasteté. La congrégation des Sœurs des Sacré-Cœurs vient de naître. Nous pouvons voir ici l'audace et l'espérance du Père Monroe, tout en étant surpris par l'âge des deux plus jeunes sœurs, et pourtant, elles seront solides. Le Père Monroe sait ce qu'il fait, et il les connaît. C'est un homme avec un équilibre humain bien trempé, qui donne à sa ténacité un caractère paisible et assuré, et qui finit par conquérir les esprits et les cœurs. Dans les lettres qu'il adresse aux sœurs, il se montre à la fois fraternel et paternel dans sa relation avec elles. Il encourage, il sait être ferme, avoir de l'humour. Les sœurs voient en lui un guide sûr qu'elles aiment. Le choix du Jeudi Saint manifeste que notre consécration au cœur de Jésus est étroitement liée à l'Eucharistie. Saint Jean a choisi de remplacer le récit de l'Eucharistie par le geste du lavement des pieds pour signifier d'une manière très concrète la portée de l'Eucharistie. Jésus donne sa vie pour chacun en particulier. En l'accueillant au plus intime de notre être, il nous communique sa propre force d'aimer jusqu'au bout. De son cœur transpercé jaillit l'eau vive. Sa puissance de vie nous entraîne dans son offrande et nous ouvre à l'action de grâce du Christ dans son retour vers le Père. Le Père Monroe a choisi le cœur de Jésus comme source lumineuse de son cheminement spirituel, de son zèle pastoral et de sa fondation religieuse. Je les ai consacrés au cœur de Jésus, qu'elles y fassent leur demeure. Pour lui, on ne peut construire du solide que sur la charité. Et cette charité, elle se puise dans le cœur de Dieu. Ce qu'a voulu en premier le Père Monroe pour ses sœurs dans ses constitutions de 1844, c'est l'union au cœur de Jésus. Il nous demande aussi de prendre dans notre cœur Marie, elle qui gardait tous ces événements dans son cœur. Pour le Père Monroe, le cœur de Marie est toujours lié au cœur de son Fils. Marie est mère du Sauveur et par conséquent notre mère. De Marie, nous avons tout à apprendre. L'humilité, la fidélité. Avec elle, nous découvrons les attitudes d'un cœur plein de compassion. Nous apprenons à offrir notre vie. Et c'est seulement ensuite que vient dans nos constitutions l'œuvre apostolique. Instruire et catéchiser les petites filles de la campagne, soigner et visiter les malades, se mettre au service des pauvres pour les faire grandir humainement et dans la foi. Ainsi, les sœurs collaborent à l'évangélisation de la paroisse, cellule d'église. Nous le voyons. Cette vie apostolique découle de notre communion au cœur du Christ. La croissance de la petite congrégation n'ira pas sans affronter l'épreuve. Suite à des tracasseries politiques locales, la congrégation doit quitter les Brousilles pour Mormaison en 1839. Le cœur passionné du père Monroe sera aussi un cœur transpercé par la douleur. Il dira: l'œuvre de Dieu souffre toujours contradiction. Ce qui n'est pas appuyé sur la croix ne peut pas être de longue durée ni de grand mérite. Il n'est rien de solide qui ne soit établi sur la croix. Dieu soit béni de tout. Au prix d'une grande patience et d'une obéissance sans faille à son évêque, le père Monroe maintient l'unité de la congrégation. C'est une grande souffrance pour lui de se voir arracher l'influence directe sur la congrégation et la formation des sœurs. Pendant ces années de persécution qui ont duré 18 ans, le témoignage du père Monroe est marquant. Le silence qu'il sut garder à l'égard de ses détracteurs exprime sa douce charité. Je cite le père Baudouin. Il faut que ce bon curé des Brousilles ait bien du courage pour tenir à tant de persécutions. Vraiment, si j'en avais eu autant que lui pour ma communauté, je crois que j'y aurais renoncé. Mais cela n'enlèvera jamais la joie qu'il habitait, une joie surnaturelle. Je cite Sœur Marie de l'Incarnation. Que de fois sa vieille domestique nous a dit: ah, je ne sais ce qu'a aujourd'hui monsieur le curé, il est tout en jeu et en plaisanterie. Quelques jours après, on découvrait qu'il avait de grandes croix et des peines bien amères. Je crois que l'on peut dire qu'il a vécu cette béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le père Monroe meurt en 1856. Homme de la Bible, passionné de transmettre l'amour du cœur de Jésus, on peut dire, avec Sœur Marie de l'Incarnation, qui est la petite Esther Blé qui a prononcé ses premiers vœux à l'âge de 12 ans, on peut dire que sa vie a été une prière et une oraison perpétuelle. J'en arrive à ma troisième partie. Le père Monroe, un passeur de vie. Passeur de vie. Sœur et associés vont reconnaître cette expression qui nous a été donnée lors de notre chapitre de 2013. L'amour qui brûlait le cœur du père Monroe brûle aujourd'hui en nos cœurs. L'expérience que le père Monroe a faite de l'amour reçu et donné dans une vie livrée au quotidien, dans une vie humaine et chrétienne, est une expérience de vie dans l'esprit. Cette grâce, il la transmet aux premières sœurs et à travers elles à toute la congrégation. Il nous dit: Soyez toutes des missionnaires. L'implantation de la congrégation dans l'église de Luçon, diocèse de fondation, va connaître une rapide expansion. À la demande des prêtres, les communautés se multiplient dans les paroisses. À la mort du père Monroe en 1856, la congrégation compte 192 sœurs. Elles tiennent 41 écoles primaires et 4 dans les diocèses limitrophes ont été ouvertes. En 1900, les sœurs sont au nombre de 835. Elles tiennent 130 écoles en Vendée et 18 hors Vendée. Les sœurs vivent leur consécration au cœur des paroisses, dans l'enseignement, mais aussi le soin des malades à domicile, les services des séminaires et des collèges. Cet essor sera brisé au début du XXe siècle par les lois anticongréganistes et 503 sœurs enseignantes doivent rompre leur engagement religieux. Sécularisées, elles ont le droit d'enseigner dans des écoles privées. L'enseignement catholique va ainsi se développer sous l'appellation « enseignement libre ». Peu à peu disparaissent les écoles sous régime communal où étaient engagées de nombreuses sœurs. En costume civil, les demoiselles, comme on les appelle, vivent authentiquement leur consécration religieuse en communauté, au service des enfants et des jeunes. Comme la congrégation ne peut plus assurer sa fonction d'enseignement en France, des aspirantes à la vie religieuse sont orientées et formées pour le soin des malades. La congrégation ayant été reconnue par le gouvernement français, congrégation hospitalière, en 1911. Après ces années difficiles, la congrégation répond à des appels qui l'invitent à partir au large. Elle s'implante au Québec en 1913. Les sœurs fondent des écoles et forme des enseignantes. En 1952, Monseigneur Batthieu, à Madagascar, demande des sœurs pour fonder des écoles catholiques et assurer la formation des femmes et des filles en brousse comme en ville. Les sœurs assureront aussi le soin des malades à l'hôpital de Majunga. En 1969, les Sœurs du Canada ouvrent une communauté en République dominicaine. Les sœurs présentes apportent leur concours aux communautés chrétiennes à l'enseignement de base. En France, à partir de 1950, en collaboration étroite avec les diocèses, la congrégation fonde des collèges ruraux, des établissements secondaires et techniques. D'autres appels nous parviennent. Des instituts nés d'une église locale demandent à se joindre à nous par voie de fusion. Il nous est donc donné d'accueillir les sœurs de la Charité de Jésus et de Marie de Cherbourg, les sœurs du Sacré-Cœur de Coutances, les petites sœurs des malades de Mauriac et plus récemment, les sœurs de l'Union chrétienne de Fontenelle-Comte. Cet accueil nous a permis de rejoindre le Congo, Brazzaville et l'île de la Réunion. Avec le Concile Vatican II, l'Église se redécouvre comme peuple de Dieu, corps du Christ. Prêtres, religieux, religieuses, laïcs, baptisés dans le Christ, Nous sommes tous appelés à la sainteté. La congrégation redécouvre sa grâce d'origine et prend conscience que ce qui est trésor pour elle peut être aussi richesse pour d'autres. Des chrétiens s'ouvrent avec bonheur à la spiritualité du cœur de Jésus, telle que la propose le Père Monroe, et deviennent associés à la congrégation. L'amour du cœur de Jésus devient chemin de vie pour eux avec nous. Chaque jour, notre prière d'union au Christ dans son offrande au Père nous lie les uns aux autres, associés et sœurs. Actuellement, en France, au Québec, au Canada, en République dominicaine, au Congo-Brazzaville, plus de 200 laïcs sont associés à la congrégation. Aujourd'hui, la congrégation compte plus de 500 sœurs présentes dans 9 diocèses en France et dans les pays que je viens de citer. Sœurs insérées dans les paroisses et proches des personnes rencontrées au quotidien, associées, insérées en milieu professionnel ou associatif, proches de nos communautés, laïcs collaborateurs dans nos institutions, tous, nous avons à cœur d'être au service de la vie. C'est bien la profondeur d'une vie de foi, d'une vie donnée et offerte qui nous permet aujourd'hui d'être passeurs de vie dans un monde incertain. La parole qui va venir maintenant va être plus personnelle. Que veut dire pour moi être passeur de vie dans le sillage du Père Monroe? Je vais tenter de l'exprimer à partir de quelques-unes de ses paroles, à partir de mon expérience et de ma sensibilité spirituelle. Je vais donc faire un choix, et d'autres sœurs pourraient compléter ce que je vais dire ou le dire autrement. Aujourd'hui, le Père Monroe peut nous aider à être passeurs de vie dans notre réel, dans nos existences parfois malmenées par les aléas de la vie. Ses nombreux conseils dans les lettres qu'il a adressées aux sœurs invitent à la patience, à la persévérance, à la confiance en Dieu et en son amour. Voici une de ses paroles. Aimons Dieu, puisqu'il nous a aimés le premier. Ce message biblique, en exergue de nos premières constitutions de 1844, nous entraîne sur un chemin d'alliance, de réciprocité et d'amour. Par la contemplation du cœur transpercé de Jésus, le Père Monroe a su accueillir une force nouvelle qui transforme l'être en ses profondeurs et lui fait communier à la vie même de Dieu. Cette union intime à Dieu dans notre quotidien est dynamisme de vie. Oui, se laisser aimer par Dieu et l'aimer d'un cœur fervent est source de joie. Une autre parole du Père Monroe. Jésus-Christ n'a pas dit « Apprenez de moi à faire des œuvres merveilleuses et éclatantes », mais il a dit au contraire « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il nous invite à nous laisser façonner un cœur à l'image du sien par l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, accueillie, méditée, retournée en notre cœur, nous transforme peu à peu et devient source de notre contemplation comme de notre action. Oui, se mettre à l'école de Jésus, doux et humble de cœur, est source de joie. Une autre parole. Aimez-vous donc bien les unes les autres. Soyez toujours unis par les liens d'une douce et cordiale charité. Or, dans nos vies de communauté, chacune de nous fait l'expérience de retomber souvent dans ces mêmes travers, ce qui nuit à la fraternité. Quand les prises de conscience à ce sujet viennent toujours, c'est une grande libération. Alors, la compassion pour soi et pour l'autre, l'offrande de notre vulnérabilité, l'accueil de notre humanité imparfaite sous le regard de Dieu est source de joie. Une autre parole. Les haines et les rancunes n'ont jamais fait du bien ni remédié à aucun mal. Soyez donc paisibles et tranquilles. Dieu à la fin remédiera lui-même à tout si nous lui demeurons fidèles. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Nous expérimentons que cette fidélité au quotidien n'est pas facile et elle peut nécessiter un véritable et rude combat. Tant de fruits savoureux, désirables s'offrent à nous. La fidélité est possible en mettant toute sa confiance en Dieu et en sa miséricorde. Oui. Une fidélité soutenue par la miséricorde du Seigneur est source de joie. Une autre parole du Père Monroe, qu'il adresse à une sœur malade. Faites l'obéissance, prenez vos remèdes, soyez joyeuses selon ce que vous le permettra votre état. Ne vous inquiétez de rien. Ce que vous faites en souffrant avec soumission à la divine volonté vaut mieux que tout ce que vous pourriez faire en santé. Pas facile, quand nos difficultés de santé nous éprouvent. Et pourtant, ce réalisme saint du Père Monroe me fait du bien. Cette parole que je viens de redécouvrir récemment m'a fermé dans la confiance en Dieu et la joie, sans me soucier de ce que les autres font et de ce que je ne peux pas faire. Cette acceptation est source de joie. Et avec le Père Monroe, je peux dire « Dieu seul peut contenter un cœur ». J'en arrive à la conclusion. Il y a quelque temps, je participais à la messe dominicale au monastère de la Visitation. Le prêtre parle de la joie de l'évangile du pape François. Ces mots, pourtant déjà entendus, résonnent d'une manière particulière en moi. De retour à la communauté, je m'empresse de les noter pour les garder. Il y a quelques semaines, j'ai repris une lecture continue et assidue des lettres du Père Monroe, même si l'imprévu est venu frapper à la porte et j'ai dû arrêter. J'espère continuer. Sans doute pour me préparer à entrer dans cette année jubilaire, cette lecture me donne de la joie. Dans ma prière naît un désir. Écrire quelque chose sur la joie de l'Évangile chez les sœurs des Sacré-Cœurs. Ce désir va durer, mais je vais m'interroger. Ce désir est beau, certes, mais est-il réaliste, réalisable? Au vu de mon emploi du temps et de mes capacités, cela me paraît impossible. Et ce désir part dans les oubliettes, c'est bien ainsi. En préparant cette conférence, après avoir dit non dans un premier temps, le oui s'est imposé de manière inattendue et la mémoire a pris ses fonctions. Cette joie de l'Évangile chez les sœurs des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie n'est-elle pas la joie de l'Évangile chez le Père Monroe? De là est né le titre de cette conférence pour moi. En cette année jubilaire pour nous, sœurs et associées, que gardons-nous dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre intelligence? Nous nous sommes laissés toucher par la manière du Père Monroe de vivre l'Évangile. Par lui, nous découvrons que tout faire par amour de Jésus, c'est ce qui donne un cœur passionné et la joie de le suivre. Même si dans la congrégation, nous faisons l'expérience de notre fragilité, de notre pauvreté, une belle perspective demeure devant nous. Faire grandir le royaume de Dieu. Pour cela, nous devons, comme le dit le Père Monroe, laisser agir la grâce ou l'Esprit Saint qui agit en nous, de quelque côté qu'il veuille nous mener, dans quelque route qu'il nous conduise. Dieu ne cesse de se donner. Ainsi, ensemble, sœurs et associés, demeurons prêts à rendre compte avec douceur et respect de notre espérance.